Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est une guerre dont on parle peu. Pourtant, elle dure depuis très longtemps et elle est extrêmement complexe à décrire tant il y a d'acteurs aux intérêts divergents. Depuis des décennies, la région du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, connaît des affrontements sanglants. Dans cette province frontalière du Rwanda et de l'Ouganda, prolifèrent une centaine de groupes armés qui imposent leurs lois, pillent, violent et tuent. Alors, comment expliquer la présence de ces milices armées dans la région? Pourquoi aucun État ou institution internationale ne parvient à les arrêter? Christophe Châtelot est journaliste au Monde Afrique, il nous explique. Nord Kivu, le conflit sanglant en République démocratique du Congo, un épisode de Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard. Ces sons vous disent forcément quelque chose, il s'agit de notifications sur vos smartphones. En seulement 20 ans, cet objet est devenu indispensable à nos vies. Téléphone, réveil, on y consulte également ses comptes bancaires comme l'horaire du prochain bus. Difficile, voire impossible, de s'en passer. Et cet objet, à la fabrication complexe, n'existerait pas sans un minerai appelé le coltan, un métal indispensable à la conception des smartphones, mais aussi de voitures électriques et d'ordinateurs. Et ce précieux métal, noir ou brun-rouge, on le trouve en très grande quantité dans la région du Kivu, à l'est de la RDC. 60% de ses réserves mondiales se trouvent dans ce territoire. Pour l'extraire, des adultes, des adolescents et parfois de jeunes enfants descendent chaque jour dans des mines à des dizaines de mètres sous terre sans aucune protection.
Dans cette mine de la République démocratique du Congo, un minerai très convoité, le coltan. Pas toujours dans la boue, ils sont 2 millions d'après la Banque mondiale, 40% d'entre eux des enfants, souvent âgés de moins de 10 ans.
Moi, je n'étudie pas. Mon travail, c'est creuser les minerais.
Ils sont peu ou pas rémunérés par les propriétaires de ces sites, souvent sécurisés par des groupes armés. La lutte pour le contrôle de ces ressources alimente les conflits qui ont jeté sur les routes plus de 3 millions de personnes ces deux dernières années. La RDC détient le record mondial des déplacés, plus de 5 millions de personnes. Bonjour Christophe.
Bonjour Jean-Guillaume.
Alors Christophe, on va s'intéresser avec toi au long conflit qui touche la République démocratique du Congo depuis près de 30 ans, plus précisément dans la région du Nord Kivu dont on vient de parler. Ce conflit, il a fait des milliers de morts, des millions de déplacés. Déjà, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux nous situer géographiquement le Nord Kivu, la région dont on parle?
Oui, tout d'abord, on va parler de la RDC, un géant en Afrique, c'est-à-dire 2,3 millions de kilomètres carrés, 4 fois la France, pour un peu plus de 100 millions d'habitants. Et la province du Nord Kivu, qui nous intéresse, c'est l'une des 26 provinces du Congo. Elle se situe à l'extrême-est du pays, à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. Et c'est là, dans cette région du Nord Kivu, que se concentre l'essentiel des réserves de coltan.
Et c'est donc également dans cette région que sévissent de nombreux groupes armés. Alors, est-ce qu'on sait combien de groupes en question sont présents dans la zone?
Alors, si on prend les 5 provinces de l'est du pays, on estime qu'il y a à peu près 250 groupes armés. Pour ce qui concerne seulement le nord et le sud Kivu, c'est l'épicentre de la violence, et là, c'est plus une centaine de groupes. Leurs revendications sont toutes différentes, mais le point commun, c'est qu'ils s'enrichissent en fait en exploitant les ressources naturelles, de façon clandestine la plupart du temps, ressources naturelles dont regorge ce pays potentiellement immensément riche. Le coltan, donc, dont on a parlé, mais aussi les terres rares, l'or, le diamant, le charbon de bois, ça n'a pas négligé parce que c'est la seule façon de se chauffer ou de faire la cuisine dans cette région.
Et parmi ces groupes, il y en a un dont on parle plus précisément, c'est le M23.
Oui, absolument. Alors, c'est celui qui attire toutes les attentions, là. Depuis 2021, il a repris ses activités. C'est un groupe qui a été créé en 2012. Et il a repris l'offensive et pris contrôle de larges parts du Nord Kivu. Et là, actuellement une menace d'asphyxie économiquement Goma. Goma, c'est la capitale de la province.
Il ne leur reste que ses sacs et ses matelas. Après une marche pénible, la peur au ventre, ces familles sont arrivées à Boulengo, à 15 km au nord-ouest de Goma. Elles fuient les combats des rebelles du M23 contre les groupes d'autodéfense et l'armée. Car depuis 8 jours, les territoires de Massissi, Nyiragongo et Rutshuru sont sous les feux nourris du M23.
Et alors, quel est le profil des membres de ces milices ?
Alors, à l'exception de quelques groupes qui viennent de l'étranger, la plupart sont constitués en fait de gens de la région qui sont devenus au fil des ans, puisque ce sont des conflits qui datent de plus de 30 ans, on le disait, qui sont devenus des profiteurs de guerre. Et surtout, entre autres violences commises par ces groupes, le viol apparaît comme une véritable arme de guerre et de terreur massive. Et on a entendu parler peut-être, certains d'entre vous, le gynécologue congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Il a mis en lumière ces viols systémiques en RDC. Il a d'ailleurs fondé un hôpital à Panzi où il soigne des survivantes de viols agressées par ces groupes.
Oui, on avait d'ailleurs consacré il y a 2 ans un épisode de L'Heure du Monde à l'hôpital de Panzi. Ta collègue au Monde Afrique, Kumba Khan, s'y était rendue en reportage et elle avait rencontré des survivantes et des survivants de viols et certains des soignants qui s'occupent d'elle. Donc, le viol fait partie des exactions qui poussent les habitants du Kivu à fuir leur foyer pour éviter les groupes armés. Mais alors, où est-ce qu'ils vont une fois qu'ils ont tout quitté ?
Depuis le début de l'offensive du M23, 1 million de personnes ont fui leur domicile. Alors, la plupart se réfugient dans des camps de fortune établis à la lisière de grandes villes, en l'occurrence Goma, la capitale, Sake, qui est la deuxième grande ville de la province. Et Sake, là, ces derniers jours, est ciblée par le M23 et les déplacés ont à nouveau repris la route direction Goma.
Ils ressemblent à quoi, ces camps ?
Ce sont des camps de fortune où les déplacés, en fait, sont livrés à eux-mêmes. Leurs abris se résument à quelques mètres carrés sous des bâches récupérées à droite, à gauche, sous lesquelles s'entassent des familles entières. Il n'y a pas beaucoup de nourriture, il n'y a pas d'assistance d'ONG, ni de l'État d'ailleurs. Il n'y a pas d'assistance d'installation sanitaire, il y a quelques points d'eau. C'est un véritable désastre humanitaire, et c'est un mode de survie en fait. C'est pas anodin parce que c'est aussi une arme de guerre pour le M23. Ils mettent pression sur ces camps, les réfugiés après se déversent ou en tout cas font des pressions sur les villes qui économiquement n'ont pas les moyens de les soutenir. Pour certains, ça fait des années, voire des dizaines d'années qu'ils errent ainsi, ballottés par le cycle infernal d'exactions et de représailles qu'on n'arrive pas à arrêter.
Alors, qu'est-ce que le pouvoir congolais à Kinshasa met en œuvre pour lutter contre les agissements de ces groupes ? Est-ce qu'il a les moyens d'y faire face d'ailleurs ?
L'État, de toute façon, pêche par la faiblesse de ses institutions et au premier rang de ses institutions figure, bien évidemment, dans le cas de conflit, l'armée. Mal entraînée, victime de corruption de ses officiers supérieurs, certains participent au trafic d'ailleurs dans l'est du pays. C'est une armée qui est sous-payé, qui est mal équipé, sans réelle capacité de projection dans ce pays continent. C'est aussi grand d'est en ouest que Brest à Varsovie. Quant aux interventions étrangères, sur lesquelles l'État essaie de s'appuyer pour faire le boulot à sa place, en quelque sorte, les missions successives de maintien de la paix de l'ONU, déployées depuis 1999, qui coûtent quand même 1 milliard par an, qui n'arrive à aucun résultat. Cette mission de l'ONU est en train de se retirer à la demande des autorités de Kinshasa.
Ok Christophe, donc si je résume, l'Est de la RDC connaît une situation de crise aiguë qui dure depuis des décennies, avec des milices qui s'enrichissent avec l'exploitation et le trafic de minerais et qui sèment la terreur. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment expliquer la présence d'autant de groupes armés dans cette région ?
La crise actuelle, en fait, le point de départ, c'est le génocide perpétré contre les Tutsis rwandais par le pouvoir Hutu en 1994.
Au Rwanda.
Voici le visage actuel de Kigali, la capitale du Rwanda. Des corps allongés dans les rues, le plus souvent ce sont des civils qui ont massacré à la machette leurs propres voisins, seulement coupable de ne pas être de la même ethnie.
Là, 100 jours de massacres, de tueries et de génocides qui provoquent la mort de 800 000 à 1 million de personnes, on ne sait pas exactement. à la fin du conflit, c'est-à-dire au moment où le front patriotique rwandais mené par Paul Kagame, l'actuel président rwandais d'ailleurs...
Qui représente les Tutsis, qui victimes représente du génocide.
Absolument, et qui avait pris les armes en 90 pour cette raison, pour défendre sa communauté contre un pouvoir et un gouvernement Hutu extrémiste qui préparait le génocide. Au moment de cette victoire, les Hutus, évidemment, ne sont pas trop en sécurité et fuient le Rwanda direction l'est de la RDC. Ils fuient en empruntant un corridor sécurisé par les militaires français qui, mandatés par l'ONU, interviennent dans le cadre de l'opération Turquoise. Et donc, ces ex-génocidaires, ils arrivent en RDC, on les retrouve dans les camps de réfugiés et de déplacés. Là où tout est compliqué, c'est que ce génocide avait pour particularité d'être un génocide entre voisins. C'est-à-dire que le pouvoir extrémiste Hutu a mené une propagande pour inciter tous les Hutus à participer à ce génocide. En gros, tout le monde est coupable du côté dans la communauté Hutu, sauf quelques personnes qui ont protégé des Tutsis. Mais la plupart sont coupables. Donc, pour le Rwanda, c'est absolument insupportable d'avoir à ses portes, finalement, non seulement des camps de déplacés d'anciens génocidaires, mais aussi de toute la structure militaire Hutu qui s'est enfuie aussi à cette époque-là. Et les Français n'ont pas désarmé ces militaires. Donc, ce sont des camps d'entraînement, en fait, qui se constituent à la frontière du Rwanda et qui menacent le nouveau pouvoir de Kigali. Un pouvoir et une population qui a subi un génocide.
Et alors, que va faire le Rwanda ?
Le Rwanda demande, en fait, à la communauté internationale, à l'ONU notamment, qu'il fasse pression sur le Congo pour qu'il neutralise, d'une certaine façon, les ex-génocidaires et les groupes qu'ils sont en train de constituer à la frontière du Rwanda. Le Rwanda s'appuie notamment sur son voisin ougandais avec lequel, à ce moment-là, il a de très bonnes relations.
Et donc, comment est-ce qu'ils s'y prennent, le Rwanda et l'Ouganda, pour chasser les anciens génocidaires Hutus des camps de réfugiés en RDC ?
En l'absence de réaction internationale, ils prennent les choses en main. En fait, ils forment une coalition armée, ça s'appelle l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo. Alors, ça rassemble des militaires Tutsis rwandais, des militaires ougandais et aussi, d'ailleurs, des rebelles congolais qui s'opposent au pouvoir de Mobutu.
Mobutu Sese Seko, qui était président de la RDC à l'époque, appelé Zaïre, et ce depuis 1965.
Parmi ces rebelles congolais, on trouve une personnalité en particulier, c'est Laurent Désiré Kabila, qui est un opposant historique à Mobutu, qui souhaite renverser le dictateur, et c'est lui qui est placé à la tête de cette coalition, un peu aussi pour congoliser ce mouvement rebelle, puisque ce n'est pas une invasion rwandaise et ougandaise, même si ça en a l'air. Et en octobre 1996, donc la coalition armée pénètre au Congo, elle s'attaque au camp, elle disperse les génocidaires Hutus, elle les chasse, et la coalition finira aussi par renverser Mobutu.
Et alors, comment se passe cette opération ?
C'est une action armée très violente, c'est-à-dire que la FDL ne fait pas vraiment de distinction entre les réfugiés et les groupes armés constitués d'anciens génocidaires Hutus. Rappelons encore une fois qu'ils sont mélangés de toute façon dans les camps. Donc faire la distinction, c'est compliqué. Ils détruisent les camps, ils traquent les civils Hutus, qui eux-mêmes entament une longue fuite et se cachent dans les forêts congolaises.
L'avion de reconnaissance photo de l'ONU tourne impuissant au-dessus du Kivu. Seuls des hélicoptères seraient en mesure de porter assistance aux réfugiés dans cette région très accidentée où les combats continuent. Mais le chef des rebelles ne veut pas en entendre parler. Pour Laurent Kabila, il n'y a pas de réfugiés en perdition dans son fief.
Il n'y a pas 700 000 réfugiés ici dans cette région.
C'est une information manipulée par ceux qui veulent assister à la dictature.
Les Nations Unies publient un rapport en 2009. Ils identifient les actions armées de la FDL de crimes de guerre potentiels ou de crimes contre l'humanité potentiels, pour dire l'ampleur quand même et la violence de l'intervention. Ça va avoir comme conséquence un retour massif de certains Hutus au Rwanda, c'est-à-dire que Kigali en fait leur propose de revenir, pas en leur assurant l'impunité, certains seront jugés, mais en tout cas de la clémence. L'idée à ce moment-là à Kigali est d'essayer de réconcilier ce pays.
Ok, donc on a compris comment les conséquences du génocide au Rwanda ont poussé ces acteurs de la région à mener des opérations militaires et notamment donc en RDC. Alors, comment on fait le lien maintenant entre ce que tu nous dis là et tous ces groupes armés qui sèment aujourd'hui le chaos dans le Nord Kivu?
Lorsque le président Mobutu Sese Seko prend le pouvoir en 1965, c'est-à-dire qu'on est 5 ans après la décolonisation de la Belgique, il hérite d'un pays, mais il hérite pas d'un État. Il n'y a pas d'institution. Et notamment, il n'y a pas d'armée. Donc, pour combler ce vide sécuritaire, en fait, il s'appuie sur des groupes d'autodéfense qui se sont constitués dans différents endroits du pays pour combler ce vide. Et en échange de cette action sécuritaire, si l'on veut, il les rémunère non pas en argent, mais en droits miniers. Il les autorise à exploiter les ressources naturelles. Enfin, je parle de mines, mais ça peut être aussi du bois précieux. Enfin, ces multiples ressources dont dispose le pays, il les paye en nature. Et en fait, ces groupes finissent par s'incruster, finissent par avoir une existence économique et sociale dans le pays.
Et donc, dans ce contexte d'offensive ougando-rwandaise, Mobutu va donc s'appuyer sur ses groupes armés pour assurer la défense de l'État central. Et c'est ainsi que le conflit se cristallise entre plein de petites groupes armés, c'est ça?
Oui, chacun s'appuie en fait sur des groupes locaux avec lesquels il forme des alliances qui parfois sont très brèves. Mais c'est cette action par proxy. Ce sont des groupes armés qui, à un moment, sont utilisés par l'une ou l'autre des puissances pour mener des actions militaires, en général, sur les territoires que ces groupes contrôlent.
Et ça continue jusqu'à aujourd'hui?
Oui, parce que, un, l'État est très faible, et les groupes ont consolidé leur pouvoir. Donc, il y a à la fois un cycle de vengeance qui s'alimente, et, parallèlement à ça, une lutte pour l'accès aux ressources. Chaque groupe, en fonction de sa santé, à un moment donné, de sa force, essaiera de mordre sur le territoire de l'autre.
Ce qui est assez étonnant dans l'histoire que tu nous racontes, Christophe, c'est que aujourd'hui, ces groupes armés, ils s'enrichissent, tu nous le disais, grâce à l'exploitation de coltan et de minerais précieux qui servent entre autres à la fabrication de nos smartphones. Comment expliquer que cette région du Nord Kivu, si riche en minerais, elle n'ait pas fait la richesse de la RDC comme le pétrole a fait la richesse de certains pays du Golfe?
C'est un peu l'histoire de tout ce pays. On dit souvent que la RDC, c'est un scandale géologique. Il y a de tout dans son sous-sol en termes de richesse naturelle. Donc, il y a tous les minéraux, et notamment tous les minéraux essentiels à la transition énergétique. Alors là, on parle du cobalt, dont il est le premier producteur du monde. Il y a aussi donc le coltan, le lithium, les terres rares, le cuivre, mais aussi de l'or, des diamants, du bois précieux, du pétrole, du gaz. J'allais dire liste non exhaustive. Problème pour les Congolais, c'est que le pays a été objet de différentes révolutions industrielles et l'objet de ses richesses plus qu'acteur. Au début du XXe siècle, par exemple, le caoutchouc est très recherché alors que l'industrie automobile se développe et explose progressivement. La RDC est un gros producteur de caoutchouc, mais ce sont les Belges qui en tirent profit. C'est le colon belge qui en tire profit, son industrie qui en tire profit. Idem pour le cuivre, indispensable à la même époque pour l'électrification du monde, le développement de l'industrie. Les habitants, les locaux, eux, sont réduits à des conditions quasi esclavagistes pour récolter ou extraire ces matières premières. Donc, ils ne sont pas vraiment acteurs.
Et donc, le pays a toutes ses ressources dans son sous-sol, mais n'en profite pas pour s'enrichir.
Oui, on en revient à la faiblesse de l'État central. Ils sont en train de rater, en fait, cette révolution industrielle liée à la transition énergétique, tout comme ils ont raté la révolution industrielle et le commerce, l'explosion du commerce du caoutchouc au début du XXe, ou celui du cuivre qui a permis d'industrialiser l'Europe. À chaque fois, finalement, les Congolais extraient les matières premières, mais l'État central et les populations surtout ne bénéficient absolument pas de ces richesses.
Mais alors, qui exploite concrètement ces richesses aujourd'hui?
Il y a les acteurs dont on a déjà parlé, qui sont les groupes armés qui ont mis la main sur des mines, sur des richesses naturelles, surtout dans l'est du pays. Mais il y a aussi ce pillage institutionnalisé qui est celui réalisé par les multinationales chinoises. institutionnalisé parce que les contrats ont été signés. Il y a une dizaine d'années, en 2008, je crois, un consortium d'entreprises chinoises, minières pour l'essentiel, ont signé avec l'État ce que l'on appelait le contrat du siècle. C'était plusieurs milliards, près de 10 milliards de dollars. Sous la forme de troc, c'est-à-dire que l'on accorde aux Chinois des carrés miniers, des droits d'exploitation sur le cuivre et le cobalt, et en échange, ils construisent dans tout le pays, pas seulement dans les régions où ils sont présents, où ils extraient les ressources, ils construisent des infrastructures, des hôpitaux, des écoles, des stades, des routes. Sauf que dans ce pays, encore une fois, institutions faibles, corruption énorme, les Chinois n'ont pas rempli la part du contrat. Et donc, ils extraient les richesses en matière brute, ils l'exportent via la Zambie essentiellement, sans création de valeur ajoutée au Congo. Et donc, encore une fois, le Congo rate cette révolution. Les richesses ne sont pas créées dans le pays, les populations continuent de travailler dans la misère et n'en profitent pas.
Merci Christophe.
Merci Jean-Guillaume.
Si cet épisode vous a intéressé, nous vous invitons à aller suivre l'actualité africaine couverte par Le Monde Afrique sur notre site lemonde.fr. Et pour accéder à l'ensemble de nos contenus, vous pouvez vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre d'abonnement spécialement faite pour les auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde, un mois d'accès abonné gratuit. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à bientôt.